stuk, een stuk. Et de mesure piano. Comme écho. Encore une fois.
Heures sur France Culture, émission anti-chérie avec les Vikings de la Guadeloupe, formation historique et musclée. On peut les voir torse nu dans les Inrocks cette semaine. La photo date des années 70, tout ceci pour rappeler l'histoire des Vikings de la Guadeloupe et plus largement de la France, le rapport de la France à ces musiques créoles. Les Vikings venus en force, 14 musiciens dans le studio de France Culture, plus la famille, plus les amis, avant-goût de leur concert au Zénith de Paris. Ce sera en première partie de Cassave le samedi 28 mai, c'est déjà complet, mais il reste des places pour le 29 mai. Et puis paraît chez Heavenly Sweetness une anthologie qui est même éditée en format vinyle, encore en titou, 1966-2016, qui marque les 50 ans de la formation des Vikings. On va les entendre jouer 3, peut-être 4 morceaux en direct dans le studio. À nos côtés, Émile Omar, programmateur à Radio Nova et auteur d'une compilation indispensable. Anti-chérie, édité chez Fanon Records, tout un programme entre compas cadence, sélectionné par l'organisateur des soirées Tropical Discothèque, dont on aura aussi l'occasion de parler. Émile, vous avez des notions de créole, Émile ?
Trop peu, malheureusement.
On va vous mettre à l'épreuve pendant l'émission.
Ça va aller vite alors.
On a sorti quelques jolis vinyles de la collection de la discothèque de Radio France. On les fera venir dans le studio tout à l'heure. Mais place au groupe Les Vikings de la Guadeloupe. Nous sommes en direct et je vais donner tous leurs noms. Guy Jacquet à la guitare, Camille Soprane qui nous rejoindra à la table, ainsi que Max Séverin, Hippomène Léovéa, Fred Okago se sont au chant. Jocelyn Marbeuf est au piano, Daniel Mathieu à la batterie, Fabrice Durimel à la basse, Evenor Clavier est au congas, c'est un petit piège. Pamela Pommier fait les chœurs, la section cuivre, ce sont les cousins Rudy et Richard Desquieux au sax et trompette, Gérard Grandman au trombone et Joël Bont au sax. Ouf, les Vikings. Dégagez en direct sur France Culture, messieurs.
Nous tout cas comprendre ça, nous cas si fort des autres, et nous tout cas.
Les Vikings de la Guadeloupe en direct sur France Culture. Quelques-uns vont nous rejoindre à la table, mais déjà présent, Hippomène Léova, que je vois s'installer. Camille Soprane, qui était au sax, c'est tout indiqué, nous rejoint. Et puis je vois aussi Max Séverin s'installer à la table. Un mot, on vous interroge toujours là-dessus, mais allez, on va le faire. Sur ce nom des Vikings, à chaque fois, on vous demande d'où ça vient, les Vikings, à la Guadeloupe. Alors c'est lié, je le sais, à l'équipe de football des Red Stars, à Pointe-à-Pitre, puisque les joueurs étaient surnommés les Vikings. Mais pourquoi est-ce qu'on surnommait les joueurs les Vikings? Ils jouaient avec des casques à pointe. Comment ça se fait?
Eh bien, c'est une manière de fraiser un peu l'esprit des Vikings sur les côtes des Caraïbes. C'est une manière dérisoire, mais c'était justement la manière que le Red Star, il faut le dire, le père de Fredo Cargos, qui fut aussi Fredo Cargos, le président du Red Star. Et pour revenir vers la métropole, quand il revient, et pour honorer son père, il dit, voilà, je vais nommer les Vikings, et cet esprit des Vikings sur les côtes des Caraïbes, c'était une manière de mettre la flamme et aussi bâtir. Parce que les Vikings sont des envahisseurs aussi, des bâtisseurs.
Une seule chose qu'il a remarqué, c'était la blondeur, mais on se refait pas, quoi.
Non, mais vous aviez les abdominaux qui étaient bien là, quand même. Elle est incroyable, cette photo qu'on voit.
Et justement, en montrant la photo, tu as mis le doigt sur l'élite, c'est-à-dire sur mon ventre à moi. Tu vois, sur la photo. Non, je rigole, bien sûr.
Non, mais vous êtes toujours magnifique. Le groupe s'est interrompu pendant une petite période. Il a été créé, donc, il y a presque 50 ans. Et puis,
il y a même 50 ans.
Voilà, il y a 50 ans, même, on en célèbre l'anniversaire. Ça s'est interrompu. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a donné la flamme de départ pour reprendre? Est-ce que c'est le disque ou des programmateurs de concerts ou des gens qui vous demandent, on a envie de danser comme autrefois, de retrouver l'esprit des balles? Et qu'est-ce qui redonne l'énergie?
C'est-à-dire que le groupe ne s'était pas complètement interrompu. Nous fûmes chacun une partie de notre vie, aller là-bas, revenir et tout ça. À partir du moment qu'on nous rappelait ensemble, on dit, on va faire quelque chose, vous revenez. Alors, les balles s'étaient interrompues, c'est vrai, mais il n'est pas question que les Vikings meurent. Et c'est déjà tout ce qu'on voudrait un jour, revenir à tous les coups, parce que les Vikings furent aussi un vecteur de la jeunesse. Nous voyons aujourd'hui toutes ces histoires criminelles et la jeunesse n'a plus de repères. Mmh. C'est vrai qu'il y a eu d'autres groupes, mais les Vikings furent le lanceur de tous ces groupes entiers, de la nouvelle génération.
Ouais. Il y a eu quand même des détonateurs. Par exemple, moi j'avais laissé tomber, et Hippomène Léova, qui est mon vieux copain, est venu un jour, il m'a dit, bon, on vous demande de repartir, vous avez une nouvelle aventure. Et moi je disais, ouais, mais ça m'intéresse plus, j'ai plus l'âge et tout. Mais il a fait une bonne pression sur moi.
Alors, à vous voir sur scène, enfin là dans le studio en tout
non,
cas,
enfin, t'as dit, quand
l'âge
je
n'est bonne, pas un problème. Hein.
Bonne pression, il ne m'a pas kidnappé, mais il m'a fait comprendre. Mais oui, il a trouvé un argument bateau, il m'a dit, avant de crever, tu reviens. Alors donc, ça a donné tout ça, mais il peut l'expliquer encore mieux que moi.
Et puis, il y a... allez-y, Hippomène, je vous écoute.
Oui, ce que je voulais dire, c'est vrai, dissoudre les Vikings n'a jamais été. Chaque personne a fait son chemin. Moi, j'ai fait le mien, Soprane a fait le sien, Guy Jacquet, Okagos a fait quelque chose. Ça a permis aussi, je me permets de le dire, quand j'ai quitté les Vikings, de faire Omé Exaïwan. J'ai fait Exaïwan parce que j'étais aussi chanteur des Vikings, j'avais une ouverture. J'ai fait Exaïwan avec Gordon Anderson. Et puis, après, quand ça n'allait pas avec Exaï, il fallait que j'aille aussi vers Gamax. J'ai aussi travaillé, personne ne connaissait Gamax. J'ai pu quand même accompagner Jeff. D'ailleurs, le premier disque de Gamax a été fait chez Narayadou. C'est moi qui les ai amenés à Martinique. Alors, c'est pour dire que, et Camille a dit quelque chose de très important, il fallait enfin, multiplier des Vikings. Je dirais même, Exaïwan vient des Vikings, parce que j'étais le chanteur des Vikings. Exaïwan vient des Vikings. Après, Gramax aussi a suivi parce qu'il fallait. Et mais puis, plein d'autres gens, quoi.
Et c'est un groupe qui a fait de nombreux enfants, puisque si on compte bien, je crois que David Comeyas explique qu'il vous a rencontré, hein, qui a fait les notes qui accompagnent la sortie de cette édition. Il explique qu'il y a presque 200 musiciens qui sont passés par les Vikings. Voilà, voilà.
Tout à fait.
C'est extraordinaire.
En 50 ans, oui. Ouais.
Ouais. En 50 ans, le Tania Saint-Val, Gilles Floreau, enfin, beaucoup de personnes
sont passées par les Vikings.
Vous jouez ici, au Zénith, à Paris, en première partie de Kassav, qui est l'autre très grande formation qu'on associe immédiatement au Zouk. Hein. Vous allez jouer en première partie de Kassav au Zénith pour deux soirs de suite. Kassav, c'est une sorte de petit frère des Vikings ou d'héritier.
Eh bien, s'il n'y avait pas eu les Vikings...
Parce que c'est le bassiste qui va
fonder. Il n'y aurait pas eu Kassav. Il y aurait peut-être autre chose, et c'est le bassiste Pierre-Edouard Simus qui, à un moment donné, comme disait Hippomène, bon, celui-là est parti, a voulu continuer un petit peu un autre style, en créant le groupe Kassav. C'est pourquoi cette rencontre fait un petit peu la transition entre les patriarches et les juniors que sont Kassav.
Je pourrais dire que je suis le lanceur de Kassav.
Voilà.
Alors, on ne marche jamais sans les Vikings.
Voilà. On associe les Vikings, mais Kassav qui a fait son chemin merveilleux, quoi. Là.
Je suis le saxophoniste qui met la flamme dans tous les morceaux automatiquement. J'arrange aussi
Il a enregistré quelques titres avec eux au début.
Automatiquement, il faut savoir que les Vikings en font partie.
Voilà. D'où cette rencontre amicale et fraternelle est juste.
Et on entend bien donc des individualités fortes et affirmées au sein de ce groupe. Et puis, je ferai encore un lien avec le football, puisque, enfin avec le sport en tout cas, c'est la compétition, puisque vous vous affrontiez avec d'autres groupes. Ça, moi, je n'étais pas aux Antilles à ce moment-là, mais visiblement, il y avait des balles avec deux podiums, deux scènes différentes. Aiglons, les autres groupes, les autres formations, les Rapaces, les Léopards, il y avait des compétitions. J'imagine que ça a été un moteur formidable pour tous les groupes, puisqu'il fallait à chaque fois essayer de dépasser. Vous avez des souvenirs comme ça de compétitions qui ont été dures.
C'est-à-dire que les Vikings avaient une avance, une très grande avance, sur la diversité, le répertoire. Quand il fallait jouer de la musique de scène, nous jouions de la musique de scène. Quand la musique de bal, la musique de bal, on ne mélange pas tout ça. Nous avions une avance, d'ailleurs, les Haïtiens, quand ils sont arrivés, ils disaient que vous aviez commencé aux États-Unis. On dit non, on ne connaît pas les États-Unis. Mais j'avais une certaine avance morale. Ouais. Je suivais beaucoup les Américains. Automatiquement, j'avais des groupes comme Sweet and Fire, Blood, Sweet and Tears, tous ces groupes, Coulomb's Gang. Et je fréquentais déjà, je venais à Paris, je voyais un peu ce qui se passait, et nous faisions un répertoire qui n'avait rien à voir avec la musique antillaise.
Oui. Et c'est ça qui est très intéressant.
Dans la compétition, surtout, on fait compétition, c'est un mot.
Ah, c'est les duels, il faut dire.
Les duels, parce que, par exemple, Hippomène a fréquenté beaucoup les groupes dominicains, donc il avait cette avance, ce type de calypsonienne, etc. Et nous, comme disait Camille, nous, les Vikings jouaient beaucoup Cool and the Gang, et on se permettait en plein bal de jouer Herbie Hancock. On disait, mais c'est malade, ces types, on est venus danser. C'est vrai, ils pouvaient me dire, mais c'est malade. Les gens s'arrêtaient pour écouter. Donc il y avait cette formation un petit peu hétéroclite et éclectique qui ont fait que le style est resté et a fait la différence. Mais tu voulais parler, je sens que tu veux parler.
Comme vous, je vais échanger en fait. Mais ce qui est vraiment intéressant avec les Vikings, c'est que on sent bien qu'il y a un esprit rock, de funk, mais tout ça mélangé avec la Biggin, du Guoka. Même quand on ne connaît pas, enfin, on comprend que c'est pas vraiment du pur funk, c'est pas vraiment du Guoka. Tout ça est très mélangé, et même quand vous faites des reprises, c'est-à-dire que, par exemple, vous adaptez une chanson du répertoire de la Côte d'Ivoire, on sent bien que c'est réadapté, que ça redevient une musique guadeloupéenne. En fait, c'est pas tellement la musique de reprise que vous faites, c'est toujours de la réappropriation, l'entreprise des Vikings.
C'est-à-dire que c'est une équipe de créateurs. Hein. C'est-à-dire de créateurs, non pas d'inventeurs, mais d'adaptateurs. Parce que les gens écoutaient ça. C'est comme Okagos qui a fondé, il venait du yéyé.
Voilà,
il nous a transmis.
Ça.
C'était l'époque des 60.
Chantait Eddie Michel.
Il a gardé les pattes, hein, d'ailleurs.
Il chantait Eddie Michel, Johnny et les autres. Et ça, c'est la première formation qui vraiment... sur la manière de ramener une nouvelle jeunesse. Déjà, on ne chantait pas beaucoup en français. Et pour chanter du français, il fallait vraiment vivre là-dedans. Nous sommes français, mais restons un petit peu dans le créole. Et puis, Okagos arrivait avec un langage différent quand il chantait Aline et tous ces chansons.
Parce que lui, il avait été au Golfe de Rouault.
C'est ça.
Voilà. Et il a connu Eddie Mitchell, il a connu Johnny Hallyday.
Ça, donc, il a même pris des cours de chant avec Lynn Renaud.
Exactement.
Incroyable.
C'était une certaine sacrée avance sur ce côté-là. Parce que la première génération de nos parents chantait du français, mais vous savez, on a la première langue créole. Je t'ai dit que tu n'es pas venu. Alors, ces genres de trucs,
c'était
éliminait un peu pour reprendre. C'était... Si on chante en français, il faut vraiment chanter
en français.
Donc, ça, il avait parler français, parler créole, c'est très important. On va avoir l'occasion d'en parler, notamment avec Émile Omar. Puisque vous parlez de reprise, et je sais que vous avez préparé, enfin, pendant les balances, je vous ai entendu réinterpréter Elvis. On a trop envie de vous entendre. It's Now or Never.
Ah oui, ça c'est Monsieur Okagos.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour retrouver les instruments et on vous écoute l'interpréter ?
Oui, parce que comme j'ai envie de rentrer chez moi après, je me tempère.
Non, et vous revenez parler après parce que j'ai plein d'autres questions à vous poser.
Ok, d'accord.
Et puis il va falloir parler de ce très beau disque d'Émile Omar, mais
d'accord.
Là, les Vikings, il faut qu'on vous entende.
D'accord.
Bon, et pendant ce temps-là, je vous laisse le temps de vous installer et je pose une question à Émile Omar parce que vous mentionnez, Émile, dans les notes de cette compilation Anti-Chérie, dans lesquelles il n'y a pas les Vikings de la Guadeloupe. Hein, vous avez pris les Vikings de la Martinique.
Oui, en fait, c'est une bonne guerre. On connaît bien Franck, on fait partie.
Voilà, il n'était pas question de sortir les mêmes choses en même temps. C'est normal.
S'il ne l'avait pas mis sur le best-of, il y en avait un, le Aïnama, je l'aurais mis. Puis c'est un classique de la soirée. Il y a beaucoup de musique magnifique.
C'est un vivier inépuisable quand on va aux Antilles. Vraiment, il y a un nombre de
la
très
discographie est faramineuse.
Voilà. Qui vous permet d'ailleurs de faire des soirées depuis presque 6 ans avec Tropical Discothèque. C'est un répertoire inépuisable et pas assez valorisé. On va les écouter justement puisqu'ils sont en train de se préparer derrière nous, les Vikings de la Guadeloupe. Vous me faites signe si vous êtes prêts, sinon on continue à causer. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est prêt ?
S'est envolé. Pour toi, mamie, j'ai donné mon cœur et mon bonheur est revenu à tout jamais. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love on way, it's now or never, my love on way. It's now never, my love, one way. It's now never, my love, one way.
Elvis, Elvis.
ça fait moins la peine qu'à me serrer. En changer papa, en ville répondre, celle bidon qui fait bas. C'est un petit chanson pour m'encourager. Pour faire couper con, arrête, m'arrête con. Nous viennent les bananes, mais con là aussi. Pour faire couper con, arrête, m'arrête con. Nous viennent les bananes, mais con là aussi. Pour faire couper con, arrête, m'arrête con. Nous viennent les bananes.
Les Vikings de la Guadeloupe en direct sur France Culture. Merci, je récupère mon casque qu'on a dû prêter pour les retours. Mais voilà, c'est ça les joies du direct. Je précise que les Vikings de la Guadeloupe seront très prochainement en concert en première partie de Cassave le 28 mai. C'est complet, mais il reste des places pour le 29 mai au Zénith à Paris. Et puis l'anthologie, elle vient d'être éditée et bien éditée chez Heavenly Sweetness. Et puisqu'il était question de parler français, de parler créole, je voudrais vous faire entendre à tous une archive. La voix, mais elle est bien vivante, d'une écrivaine, Simone Brumand, devenue Simone Schwarzbart, auteure, entre autres, de « Pluie et vent » de Télumé Miracle. C'était en 72. Simone Schwarzbart parle ici de la Guadeloupe.
C'est un pays où on n'aurait pas très envie d'écrire, parce qu'on a envie d'être avec les autres. C'est un pays aux portes et aux fenêtres ouvertes. Pour écrire, il faut vraiment en avoir envie. C'est très, très actif. C'est une espèce de théâtre permanent où les gens se font valoir les uns les autres, où les gens fournissent, comme on dit. Il y a des fournisseurs. Vous avez beau n'avoir pas d'argent là-bas, dès lors que vous fournissez, c'est-à-dire que vous êtes un être théâtral, que vous jouez votre vie. Donc, dès lors que ça se passe comme ça, eh bien, vous êtes un grand monsieur. La Guadeloupe a une histoire particulière. Le langage créole est un langage très imagé. Nous avons, nous autres Antillais, une espèce de rapport de force avec la langue française, écrivain Antillais, j'entends, parce que nous la démantelons, nous la forçons, nous la faisons rire, nous la faisons danser aussi à notre rythme, nous l'approprions à notre façon, si vous voulez. Et il y a d'abord un acte d'appropriation de la langue qu'il faut faire avant de commencer à travailler, si vous voulez. Et puis ensuite, il y a cette langue créole qui est à côté, qui est une langue créatrice en train de se faire, inachevée, si vous voulez, constamment des inventions. Il y a des tas de proverbes qu'on invente sur l'heure. Il y a des petits événements qui arrivent et alors la personne qui trouve le mot, qui fabrique le mot juste, il y a des mots, il y a une invention de la langue, si vous voulez. Donc, il y a cette chose bien particulière qui est la langue créole. À côté de cela, nous parlons un français qui est différent du français d'ici. Nous parlons un français qui est le français des cadets de familles françaises qui sont arrivés en Guadeloupe pour faire fortune et qui, un français très ancien donc, nous parlons un français de gens de marine avec des termes forts, vigoureux, qui sont restés dans la langue. C'est tout à fait différent. Et nous avons un rapport particulier avec la langue française. La langue française est bien plus grande que la France.
France Culture,
Continent Musique,
Mathieu Conquet.
Simone Schwarzbart, qu'on entendait, la langue française est bien plus grande que la France. Elle s'exprimait dans Radioscopie, c'était en octobre 79 sur France Inter. Ça va être une question collégiale. Max Séverin, vous aussi, vous fournissez, hein, comme on dit manifestement. Il y a des termes de marine ou des mots anciens qu'on retrouve en Guadeloupe et pas forcément en métropole. C'est ce qu'évoquait un instant Simone Schwarzbart.
Oui, je ne suis pas spécialiste de la mer, mais il y a beaucoup de termes. Elle a raison, il y a beaucoup de termes étrangers à la langue française. C'est dû à notre environnement caribéen, anglophone et également hispanophone, qui nous autorise depuis fort longtemps à rentrer dans certaines conversations et certaines phrases de notre, entre guillemets, grammaire. Ce qui fait que, pour nous, cela enrichit la langue française, à ce moment-là, c'est un petit peu comme en France. vous avez des mots anglais, on parle du franglais, on part jamais en fin de semaine, on part en week-end ici. Oui. Et c'est la même chose chez nous, donc nous avons des mots créoles qui ressemblent ou qui s'assimilent à la signification française, ce qui fait que ça fait une langue à part, mais qui permet aux Guadeloupéens de comprendre et aux Français également de comprendre. Vous avez des touristes qui viennent qui parlent français et quand ils repartent, ils parlent franc créole. Parce qu'ils sont habitués. C'est par exemple, ici en France, vous avez ces petits beignets. On dit beignets de morue. Après, quand vous franchissez un petit peu plus loin, on dit accra de morue.
Bien sûr.
Et chez nous, on dit marinade.
Ah.
Parce que ça a mariné. Vous voyez.
Alors, mais ils ont le même goût.
Ils ont le même goût.
Ils sont meilleurs en Guadeloupe.
Ah ben, là, nettement. ça ne se pose pas. De... Oui. Enfin, je sais bien qu'on est sous France Culture, mais enfin, donnez-nous au moins une chance d'avoir nos accras un petit peu meilleurs que les autres.
On est diffusé partout, donc voilà. Là-dessus, tout va très bien.
Voilà, c'est ça. C'est ça, petit peu la culture. Ce mélange de culture que nous avons, d'abord par le français, ensuite par le mélange des îles d'à côté, des langages d'à côté. Ça a permis de créer des mots très créoles, mais qui signifient réellement d'abord la créolité, et ensuite, c'est ce qu'elle disait à Simone, c'est ça qui fait la richesse. La différence et la difficulté, c'est que pour faire passer ça à 8000 kilomètres, ça devient un petit peu plus difficile. Heureusement qu'existe France Culture pour nous permettre de nous esbaudir à travers le monde entier.
Voilà, longtemps que je n'avais pas entendu le verbe « esbaudir ».
Mais c'est là que tu dis merci.
On vous est ravis, je vous remercie.
Ah, je vous remercie.
À propos de cette frontière, peut-être que pour présenter le français, quand vous venez, en tout cas, oui, la langue française, quand vous allez venir au début, dans les années 70 en France, les Vikings, vous allez avoir rencontré tout de suite un très, très gros succès. Hein. Je crois qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui viennent vous écouter parce que bah, il y a toute une population des Antilles qui est venue travailler en France, qui en métropole, qui est venue à l'invitation, pas directe, mais de Michel Debré, finalement, enfin, c'est finalement parce qu'on fait venir beaucoup de forces de travailleurs en métropole que quand vous venez jouer ici, vous allez rencontrer un public très nombreux qui vous attend. À quel moment est-ce que Hippomène Léova, par exemple, j'ai lu un entretien, vous expliquez que vous avez compris que vous pouviez remplir de très grandes salles, être un très grand groupe, mais que vous ne seriez jamais célèbre comme un grand groupe français. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte de ça?
Ben, moi, j'ai toujours considéré qu'on est des Français à part entière. Hein.
Je
tiens mon mot. Je ne démode pas. Ça le prouve parce que je dis que Kassav, qui est le plus grand groupe français, moi, je dis qu'il n'a jamais reconnu comme groupe français. Kassav est beaucoup. On l'aime en Guadeloupe, on l'aime en Afrique, mais je dis que Kassav, qui remplit toutes les salles, qui a l'occasion quand même de faire Stade de France pour le faire quand même. Mais on considère pas Kassav comme on devrait le considérer. Alors c'est pour la bonne raison que moi j'ai toujours dit qu'on est des Français à part entière. Les Français nous ne respectent pas. Nous n'avons pas la place qu'on mérite. Pour la bonne raison, j'ai toujours dit c'est grâce aux Guadeloupéens maintenant. Aux Antillais, si l'hôpital existe, si le RATP existe, et si la poste, parce que quand les Guadeloupéens, les Antillais, allaient
distribuer... Il y a beaucoup d'Antillais dans les services de la poste,
distribuer.
Et dans les hôpitaux, on est soigné par beaucoup d'Antillais.
Alors vous comprenez, alors moi je dis que je suis comme ça, et pour signaler, je dis que je l'ai toujours dit, que je suis actuellement, à mon âge, beaucoup plus militant. Plus militant qu'artiste, parce que je suis aussi un travailleur social qui a fait quand même pas mal de choses et qui défend bec et ongles la culture guadeloupéenne et aussi antillais. Et je profite aussi pour une date pour dire aujourd'hui j'envoie une grande force pour mes amis, mes frères en Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui particulièrement c'est une date historique
au
1967. Où beaucoup de Guadeloupéens s'est fait assassiner par les Français, par l'armée française. Alors je profite aussi parce que là il est en Guadeloupe, il est 11h, 10h moins 10, Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je n'ai pas les nouvelles, mais sûr et certain, ça y est en train de bouger, parce que pour nous, c'est une date quand même assez historique.
Oui, je voulais juste dire une petite phrase. Quand il a parlé de groupe français, j'ai eu l'occasion d'aller à Porto Rico il y a 20 ans, et Cassaves était connu parce que c'était Sony. Enfin, je ne sais pas si je l'ai cité. Enfin, je veux dire, c'était international.
C'était édité sur un...
Oui, oui. Et je me souviens que dans le bureau de cette marque, j'étais rentré, j'ai vu une affiche de Cassaves. Et j'ai dit au gars en espagnol, « Ah, mais c'est un groupe de la Guadeloupe. » Il m'a dit, « Non, seigneur, c'est un groupe français. »
Ah, vous voyez.
Ah, j'ai eu beau insister pour dire, « Oui, mais c'est de la Guadeloupe. » Non, seigneur. Alors, il m'a parlé à moi. Donc, c'est un peu, ça rejoint ça. Et c'est après que... Voilà.
Eh bien, je vous propose quelque chose. C'est un titre sélectionné par Émile Omar. Je vous propose de déposer les armes. Déposer les armes par les Vikings de la Martinique, ça devait être, j'imagine, des concurrents, hein, voilà, puisqu'on reste dans l'idée des duels. Extrait de la compilation, où est-ce que je l'ai mis, voilà, elle est ici. Antilles, Chérie, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Dominique, concentré de compas, cadence, des racines, de la musique à danser des Caraïbes, sélection signée de vous, Émile Omar, programmateur à Radio Nova. Un mot sur ces Vikings de la Martinique, c'est un groupe qui est formé, alors j'ai lu les notes à Basse-Pointe, et qui, dites-vous, dans les notes, aura son heure de gloire entre 73 et 80. C'est une réponse, en fait, aux Vikings de la Guadeloupe.
Pas forcément.
Parce qu'il y avait aussi les Vikings d'Haïti, je crois même.
Pas forcément. Après, il faut admettre que ça a été très compliqué d'écrire. Autant moi, je suis quelqu'un de la musique, je suis programmateur musical. Donc, avant tout, je cherche de la musique, les morceaux qui me semblent justes de mettre en soirée, ce que je fais depuis 6 ans. Pour l'occasion, je me suis dit, c'est le moment de poser ça sur un disque, puisque effectivement la soirée a un certain succès, on a plus de 100 éditions.
Ça fait 6 ans que vous faites des soirées tropicales discothèques.
Les gens dansent comme des fous sans savoir exactement comment s'appelle cette musique, c'est puisque je suis pas de la communauté, pas du tout. Je suis arrivé par un autre chemin, j'ai écouté beaucoup de house music, donc j'écoutais la musique américaine dansante, le disco, la house, j'ai écouté la musique cubaine, et puis petit à petit, un jour, je suis arrivé sur la musique guadeloupéenne, haïtienne.
Mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous me rappeliez que le zouk a été très important dans l'identité et l'histoire de Radio Nova.
Oui, complètement, chose qu'on ne sait pas toujours, voilà. Mais effectivement, beaucoup d'artistes zouk sont tous passés à Nova au tournant des 85-86, effectivement, Nova était là.
Alors, Hippomène, Léo,
oui, je voulais juste me rectifier parce que je suis tellement précipité, parce que je suis pris par ce 67. Alors, je voulais juste dire qu'on est on est considéré comme des Français complètement à part entière. Voilà.
Entièrement à part.
Eh bien, écoutez, vous
allez. Parce que.
Oui, mais c'est le lapsus qu'on peut trier.
Oui, alors, je veux bien aimer aussi entendre ces.
C'est le fondateur.
Et qui n'a pas échappé à Fred Okagos.
Voilà.
Écoutez ce morceau, cet autre morceau qui peut-être devrait fédérer tout le monde. On va pas pouvoir le passer en entier parce qu'il dure un quart d'heure. Un quart d'heure, ce morceau, mais il est très important par les Français, par les créoles.
Allez, créole. Le article défini, masculin singulier, sera porté au pluriel. Pluriel, non propre d'amour, sera pour ta tête chargée. Y'a mon qui relève, y'a dit Rodrigue pour qui sont pas parler français. Y'a mon qui relève, y'a dit Rodrigue pour qui sont pas chanter français. Moi, c'est haïtien qui est éclairé, nègre 10 oreilles enragées. Moi, par un même parler français. On m'a GBD, moi c'est haïtien qui est éclairé, nèg mwen ti soirée enragé, l'on va parler français, faut pas rancer dans la société. Parle français non, pas parler créole ou fini.
a ce qu'on appelle la prononciation, l'assonance des mots, ah, aux questions de attributs, concordance des mots et des temps. Aïe aïe aïe! M'pas d'accord, non, ma fille, m'm avocat pour dire c'est patate. Faut pas fille, m'm quoi France pour dire ça c'est pistache grillé. Ah, moi, j'ai des oreilles pour entendre, moi. T'as nos français. Mais pour qui ça pour m'pas parler créole? Mais pour qui ça pour m'pas chanter créole? Mais pour qui ça pour m'pas parler créole? Mais pour qui ça pour m'pas chanter créole? Aïe, c'est belle bagaille. Moi dis c'est belle bagaille. Moi dis c'est belle bagaille. Moi dis c'est belle bagaille.
Palais créole, parler français, Rodrigue Millien et blagueur représentant de la tradition musicale haïtienne des troubadours. Bah c'est les troubadours, hein, c'est un texte fleuve qui dure. C'est un peu la, c'est une des pièces maîtresses de cette compilation, Émile Omar. Vous l'avez placé pile au milieu du disque, un morceau qui dure un quart d'heure.
Oui, c'est pour ça qu'il y a 12 titres. Ça peut paraître pas beaucoup, mais je tenais absolument à mettre ce morceau-là. Et effectivement, 15 minutes, c'est pas évident, puisqu'un CD, c'est 78. Bon, j'ai réussi, je suis content.
Comment vous tombez sur ce titre? Et puis, j'imagine qu'en faisant la compilation, vous êtes obligé de trouver les droits, les ayants droit. Voilà. Et donc, vous contactez tous les gens qui vous racontent l'histoire de ces chansons, de ces morceaux et de leurs
Exactement.
Auteurs.
Exactement, c'est la grosse complexité de l'objet de cette compile, c'est effectivement d'avoir les droits, et notamment en Haïti, où on sait, ou peu, c'est un marasme. Donc, retrouver les ayants droit des producteurs des années 70, c'est très compliqué. Mais j'ai eu la chance d'aller trois fois là-bas, donc je connais quand même quelques personnes qui m'ont ouvert la porte, et notamment Fred Paul, qui est l'un des plus grands producteurs de musique haïtienne depuis les années 60 à encore aujourd'hui, sur son label Mini Records, que j'avais rencontré il y a 4 ans. J'avais fait une petite interview de lui, il se souvenait de moi, et donc il m'a aidé. Il y a 3 gros labels en Haïti sur ces années-là, c'est donc Mini Records, Mark Records et Chancy. Et il m'a ouvert les portes, ce qui aide beaucoup, et notamment aussi pour la musique guadeloupéenne, martiniquaise. J'ai eu beaucoup
là,
de chance.
C'était beaucoup les disques d'Ebs, qui étaient très importants.
D'Ebs, normalement, ne donne rien en licence, puisque
vous en avez...
ce sont des licences. Et j'ai eu la chance, puisque Camille Soprane à côté m'a aidé. À ce moment-là, les coups de fil aident en disant « Bon, tu vas recevoir un appel, essaie de considérer autrement la démarche. » Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir mettre 2 titres au final, mais j'en demandais un qui est, s'il y a un classique de la soirée, je reviens sur cette soirée-là, c'est ce titre-là qui s'appelle Banzai d'Expérience 7, qui est un groupe qui arrive après les Vikings de la Guadeloupe dans l'historique. Vous me corrigerez, hein, parce que moi, oui, j'étais pas là. Okay. Mais ils ont connu, ils ont créé beaucoup de grandes mélodies, et ils ont été les artisans aussi de la transition vers le zouk. Puisque au moment, il y a des interviews qui existent hein, sur YouTube, où ils expliquent qu'ils sont en train de faire évoluer le son et qu'Assav arrive. Et donc ils se disent, il faut qu'on réponde. Et la réponse, ça sera Zouk Machine. Et ils arrivent avec Maldon, ce qui n'est pas rien.
Et ben on écoute un extrait justement d'Expérience 7.
Ou anti-parole, ou comme la mouche, ouvre les gourmets. Oi, oi, oi. Petit coquin, pour anti-parole ou café très mort, petite patin. Ou pour premier prix du coca belle bosse, petit coquin. Pour anti-parole ou café très mort, espèce de.
Expérience 7, le groupe qui formera plus tard Zouk Machine. Est-ce que l'un de vous peut, pour ceux qui, comme moi, ne maîtrisent pas très bien le créole, nous dire de quoi il s'agit dans cette chanson? C'est quoi ce petit coquin à qui on s'adresse?
Oh, c'est une manière, Camille Soprano. C'est une manière de déjouer un peu les sons, des lapsus qu'on trouve pour donner un... C'est comme quelqu'un qui s'appelle Jean, mais s'il a une démarche, on peut lui donner Jean le boss. Ou Jean du quartier où il habite. C'est une manière de dérision, mais qui n'est pas méchant. C'est vrai, il y a des choses comme ça, voilà.
Il faut dire que les compositions, surtout de l'époque, les Vikings ont fait ça aussi.
Max Sévrin.
Oui, il y avait beaucoup de messages, c'est-à-dire qu'il ne fallait rien faire de litigieux. Sinon, il y avait un titre qui était fait par un orchestre. Par exemple, mon ami Pomel a eu l'occasion avec les Vikings de chanter des choses. C'était des messages, avec quelquefois des prénoms. Et tu parlais, il y en a qui a parlé de Debs.
Les disques d'Ebs, hein,
oui. Et par exemple, Ipomel a eu l'occasion de chanter une chanson qui s'appelle Marie Rose, mais ça c'est un tweet gigantesque. En fait, le titre c'était Rose Marie. Et c'est avéré que quand Ipomel est rentré dans le studio à l'époque d'Henri Debs, la femme de Debs s'appelle Rose Marie. Et quand il connaît ça mieux que moi, a commencé à chanter Rose Marie, Debs a dit, il n'y a pas de disque aujourd'hui, il faut changer le titre. De Rose Marie, il a fait Marie Rose. Surtout que les paroles disaient, Marie Rose, tu as...
Marie Rose, Cautini comme ça.
Voilà, Cautini comme ça, tu as vraiment le popotin qu'il faut. Alors. Et comme c'était tellement réaliste que c'était vrai, alors il a dit non, ne chante pas ça. Ou alors tu changes le prénom. Alors il est inversé, et c'est pas une légende. Hein. Voilà.
Une question collégiale moins amusante que ce qu'on. Mais c'est ça qui est très intéressant dans le travail des Vikings, comme dans cette compilation, c'est qu'on sent, voilà, il y a des morceaux qui sont un peu grivois, qui sont vraiment des morceaux de séduction. Hein. Je pense notamment à un cocoyer qui est voilà très très drôle, hein, une mise en parallèle voilà de la noix de coco et de la femme. Mais il y a aussi des choses plus politiques et on retrouve ça dans l'article là des Un Rock qui vous est consacré, David Comeyas. A titré son article dans les Arocs, l'amère patrie, l'apostrophe, qui nous appelle tous. Hein, il explique comment la France mésestime le patrimoine musical des anciennes colonies, mais aussi, et là ça devient beaucoup plus complexe, comment l'aliénation vient aussi de l'intérieur. Par exemple, il interviewe Michel Godzom du groupe La Ferfecta, qui explique qu'à partir du moment où la chose est martiniquaise, personne ne s'en occupe. Ce qui est à nous n'est pas bon, c'est notre éducation fondamentale. Vous avez ce sentiment aussi en Guadeloupe que, alors d'un côté, en France, on a du mal à vous considérer tout à fait comme français, mais qu'en plus, même au sein de la Guadeloupe, on ne se met pas en avant, on ne considère pas que ce qu'on a fait mérite d'être mis en avant.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas là toujours pour parler politique. Il est vrai que la France, nous sommes tous en France, mais... Ceux qui sont en France métropolitaine, sur la terre, bénéficient de tout. Et ceux qui sont loin sont un peu oubliés. Ce n'est pas le fait que nous disons « ouais, on ne veut pas être français », ce n'est pas ça. On est peut-être bien lotis en tant que Français, puis c'est un grand pays. Mais on nous a un peu oubliés. Parce que je me souviens au temps de la SACEM, j'arrive... Et le directeur, il me dit, ouais, vous comprenez, monsieur Soprane, vous êtes un peu loin. Alors, je dis, est-ce que nous sommes complètement à part ou nous sommes ensemble? Il m'a dit, non, c'est pas ça. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait pour la SACEM? Puisque tous les Antillais qui sont ici bénéficient de leur cadre professionnel, de la SACEM, la CDRM et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai un tableau noir à blanchir, je lui dis. Il me dit, ah bon, monsieur, nous avons un petit problème. Alors, vous savez, c'est très difficile, il faut expliquer le problème de la SACEM. J'ai dit, je pourrais l'expliquer. Alors, envoyez-moi un guide, envoyez-moi quelqu'un, et je m'en occupe. Il me dit, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment ça va se passer? J'ai dit, écoutez, les Martiniquais dansent plus que nous sur les paillotes. Les Guadeloupéens dansent aussi, et les Guyanais aussi. Alors, je vous donne un exemple pour une entrée SACEM. En Guadeloupe, vous ferez par exemple 300 000 francs. Nous parlons en francs, hein, puisque 300 000 francs, disons 35 millions de centimes.
Oh là,
c'est-à-dire avant nous parlions
imaginez,
en francs.
Pensez à nos auditeurs qui ne connaissent que l'euro.
Oui, voilà. Disons valeur 50 000 euros pour la Guadeloupe, 100 000 euros pour la Martinique et 15 000 euros pour la Guyane. Il me dit, tant que ça, je lui dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a de l'argent là-bas, alors nous rigolons comme ça. Il me dit, si vous êtes sûr, je vous envoie quelqu'un, vous irez rencontrer les producteurs, machin, pour pouvoir les expliquer parce qu'ils ne voudront pas payer. Alors j'ai dit, OK. J'avais déjà vu, par exemple, Miko, des amis qui travaillent avec nous, puisque les Vikings tournaient sans arrêt. Alors, j'avais déjà commencé le travail. Je l'ai emmené chez Miko. Miko a dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Alors, le forfait sera de combien? Il dit, bon, on peut commencer, par exemple, à 800 francs. Voilà, je parle en francs. C'est un petit affaire, merde. Alors, voilà, 80, disons, 200 euros. Valeur pour être 200 euros par balle et comme ça, et au fur et à mesure, les choses vont avancer. Et que fut son étonnement, 2 ans après, il m'appelle, il me dit, monsieur Hildevert, vous avez quand même dépassé les espérances. Parce que, par exemple, pour la Martinique, 1000 euros, ouais.
Oui, de droit. Hein.
La Guadeloupe, un petit peu moins, mais la Guyane aussi a progressé. Alors, dans 5-10 ans, c'était, je ne sais pas moi, 100 000 euros de droits d'auteur.
Mais tout ceci aussi peut-être parce que tout n'a pas été dans les années 60-70 que vous enregistriez. Ça n'était pas bien, très bien répertorié là maintenant. Par exemple, cette réédition de vos disques des Vikings de la Guadeloupe, c'est impossible d'avoir les années des morceaux. C'est-à-dire que même vous ne savez plus, ça n'a pas été bien noté.
C'est ça surtout.
Tout ça est très compliqué quand même.
Attention, ça dépend de qui vous parlez, parce que les anciens, d'accord, mais moi je sais, mes morceaux ont été composés à partir de 1974.
Je vais pour conclure un petit peu, qu'on n'allait pas trop loin. C'était l'époque qui voulait ça, mais en tout. Hein, c'est petit à petit que, dans tous les domaines, ça a évolué dans la considération antillaise, ce qui a permis que, grâce à ça, aujourd'hui, il y a des gens comme Ronin, etc., qui l'ont reconnu, ainsi que notre ami de Nova, qui ont reconnu certaines qualités. Et que nous avons attendu l'âge canonique avec nos jeunes amis des Vikings pour venir ici à une émission mondiale.
Enfin, au moins, c'est au moins ça, voilà. Une émission mondiale. Et puisque vous parliez de paillotte et de balle, je reviens à la pratique vraiment, parce que c'est vrai que les droits, mais c'est un sujet extrêmement important, mais c'est long et il faut vraiment rentrer détails. Mais dans les notes que l'on peut trouver dans le disque qu'a fait Émile Omar Antichéri, il rappelle quelque chose de très important dans la pratique. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis réjoui de voir une véritable section de cuivre avec 4 musiciens tous ensemble, voilà, et pas un synthétiseur, ce qui a pu être le cas pendant longtemps. Et vous rappelez ça, Émile, dans les notes, c'est que le cyclone David en août 79 ravage les structures légères et que du coup, les petites paillotes où les groupes avaient l'habitude de jouer ne sont plus là et qu'à ce moment-là se développent les boîtes de nuit, le système du talk over. Et finalement, c'est vraiment la fin d'une époque à ce moment-là, c'est-à-dire que les synthétiseurs et les DJ vont remplacer les groupes de bal.
Exactement. Mais c'est plus global aussi. Hein. Ça existe aux États-Unis, ça existe en métropole. Il y a le changement. Il y a les boîtes à rythme, il y a les synthétiseurs. Les patrons d'établissements font des économies. Et puis, c'est plus simple d'envoyer un DJ. Quoi. On s'équipe d'un sound system et c'est l'avènement d'une autre époque.
Très bien.
Alors, il y a beaucoup... L'émission est toujours trop courte. On a sorti beaucoup de disques, des archives de la discothèque de Radio France. Certains que vous connaissiez, vous vouliez écouter un vieux folkways où il y avait une valse guadeloupéenne qui était... voilà, mais vous la connaissiez déjà. Mais on me dit que sur la platine, c'est un des disques d'Ebs. Et c'est Henri Guédon. Et voilà.
Pas crier, moi, choc, souris. Passe moi c'est un musicien, travaille moi c'est passer la nuit blanche pour plaisir toutes ces mouns là. Manque à jouer des pis disait, moi pour copain anti-pose, pour ça qu'a mandé anti-bomba, pour ça pépéter bombe là. Pas crier moi chauve-souris, passe moi c'est un musicien, travaille moi c'est passer la nuit blanche pour plaisir toutes ces mouns là. Manque à jouer des pis disait, moi pour copain anti-pose.
Bomba, des musiciens qui étaient un de vos choix, Max Séverin, Henri Guédon, Henri Guédon et les Contesta, donc chez les disques d'Ebs, une des perles qu'on peut trouver.
Juste pour vous dire que le pianiste s'appelle Alain Jean-Marie, un des plus grands pianistes guadeloupéens, surtout mondial en jazz et en begin aussi.
C'est parfait.
C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on dit.
Merci de cette précision. On arrive au terme de l'émission. Merci à tous les Vikings de la Guadeloupe et à Émile Omar d'être venus. Le reste, c'est à vous. Mais je précise juste que la prochaine soirée tropicale discothèque, ce sera le 7 juin avec Hugo Mendez et vous-même, Émile Omar.
Voilà, pour célébrer la musique. Donc ça sera ça pendant des heures et des heures.
Il faut absolument y aller. Myriam Meneghetti, c'est à vous.
C'était Continent Musique, un magazine de Mathieu Conquet, équipe de réalisation Olivier Guérin avec Myriam Guillot, Nicolas Delmas et Alex Lang. Préparation et archives, Meryl Meneghetti. Un grand merci à Michael Simon de la discothèque de Radio France et à Lina.